Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Alors, on dit quoi ?». Un numéro aujourd'hui dédié aux violences faites aux femmes en Afrique. Des femmes qui sont particulièrement exposées sur le continent, la preuve, selon un rapport du REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, plus d'une Africaine sur deux subit des violences physiques ou sexuelles. Un chiffre qui peut monter jusqu'à près de 65% en Afrique centrale. Alors comment expliquer ces pratiques ? Quelles conséquences pour les victimes et de quels moyens disposent-elles pour s'en sortir ? On en parle avec mes invités autour de la table. Evelyne Naoussi, c'est la fondatrice et la présidente de l'association Sunshine, une association qui lutte en France mais aussi au Cameroun contre les violences faites aux femmes et qui œuvre également pour l'égalité des genres. Khadija Azougache nous accompagne également. Elle est avocate et secrétaire générale de l'association Lawyers for Women. C'est une association internationale qui œuvre pour le droit des femmes. Khadija est également membre de l'IPPF, c'est le planning familial au niveau international. Et puis Maïmouna Koulibaly est également avec nous. Elle a été victime de violences dans son enfance et son adolescence. Et aujourd'hui, elle anime des ateliers de boutithérapie. Un bel exemple de résilience. Bonjour à toutes les trois et bienvenue dans Alors, on dit quoi ? L'arbre à palabres de la jeunesse africaine.
Alors, on dit quoi ?
Lucie Bouteloup.
Alors, première chose qui me semble indispensable pour commencer cette émission, c'est de se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'on qualifie au juste de violence ? Certains ont parfois du mal à placer le curseur. Khadija Azougache.
Alors, quand on parle de violence, on pense tout de suite aux violences physiques, sauf que les violences, c'est beaucoup plus subtil. Et dès 1979, CEDAW, c'est la Convention internationale de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donc ratifiée par la plupart des États africains, cette convention définit les violences faites aux femmes et ne se limite pas simplement aux violences physiques. Elle y inclut également les violences psychologiques, les manœuvres, les injures, les manipulations,
les violences,
les humiliations tout à fait, et les violences économiques et les violences sexuelles.
Alors, c'est très difficile quand on veut aborder la question des violences faites aux femmes en Afrique de trouver des chiffres récents. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Comment vous expliquez ça, Khadija Azougache ?
Malheureusement, on a quelques données puisque l'ONU recense depuis les années 2010-2014 avec des indicateurs, avec des tentatives d'homogénéisation des termes, tente de recenser les féminicides d'un côté parce que ce sont les violences les plus graves et les plus visibles, et de l'autre tente de recenser également les violences faites aux femmes. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes indicateurs, et dans les pays africains, on se limite simplement à faire remonter quelques féminicides et quelques formes de violences parce que on est dans le déni, on est dans le fait justificatif, on justifie soit par une culture, soit par une religion, soit par des pratiques qui ne sont pas des violences selon certaines personnes, et alors que les États ont tous ratifié des textes internationaux et même nationaux qui luttent contre les différentes formes de violence. Donc il y a une problématique d'indicateurs, parce que par exemple en France, si on vous dit que pour l'année 2022, il y a 122 féminicides, on vous dira par exemple pour la Turquie ou pour l'Afrique subsaharienne, par exemple le Mali, on vous dira nous on est en deçà, ce qui ne reflète pas une réalité.
Oui, il y a ce fameux chiffre noir.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il s'agit ?
Brièvement, le chiffre noir, en tant que juriste, c'est tout ce qui n'est pas à la connaissance des autorités.
Tout ce qui n'est pas déclaré, donc.
Tout à fait. Tout ce qui n'est pas déclaré. Ça, on peut nous dire, alors c'est de la faute des victimes, c'est elles qui ne déclarent pas. Mm-hmm. Ou c'est de la faute des familles si la victime est décédée. C'est faux. Malheureusement, le chiffre noir, c'est aussi lorsque les victimes ont déposé plainte et que ces plaintes n'ont pas été recensées, n'ont pas été remontées.
Alors, les victimes ne se rendent pas toujours compte qu'elles sont des victimes. C'est ce que montre un sondage, toujours du REFELA au Mali, par exemple. 79% des femmes pensent que leur mari a le droit de les battre. Elles sont 74% au Tchad ou encore 75% en RDC. Evelyne Naoussi, comment expliquer une telle assimilation des femmes face à ces violences ?
Il faut savoir que au Cameroun, par exemple, il y a des cultures carrément qui pensent que si leur mari ne frappe pas sur elle, c'est que le mari ne l'aime pas. Donc c'est une culture et c'est ancré dans la société. Et la société est patriarcale. Et notre travail au quotidien sur le terrain, c'est de faire prendre conscience à ces femmes qu'elles doivent dénoncer ces violences-là. Donc voilà, on a par exemple...
Donc c'est le poids de la société patriarcale.
C'est le poids de la société patriarcale, c'est la religion. Et il y a aussi les mœurs, le fait d'avoir ce double poids en tant que victime, de savoir qu'on va être jugé, d'avoir dénoncé, ce qui fait très souvent ce franc-là aux femmes de ne pouvoir pas se rendre au commissariat, par exemple, pour porter plainte.
Alors, votre mère a été, elle aussi, victime de violences conjugales. Oui. Et vous expliquez que c'est en arrivant en France, en fait, que vous vous êtes rendu compte que c'était pas normal.
Oui, effectivement, ma maman était victime, comme beaucoup, beaucoup de femmes camerounaises qui sont victimes et qui sont dans le déni. Parce que, la famille déjà vous rappelle que c'est votre mari, il faut être soumise, il faut surtout pas, il faut supporter. Il faut ce mot supporter. Et puis, si vous partez, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Ma mère, elle a subi les violences pendant des années. Et toute petite, je savais déjà que, c'était pas normal. Même si on faisait à chaque fois des réunions de famille pour expliquer que non, c'est toi qui as tort. Le tort était toujours rejeté sur la maman qui n'a pas su, en gros, encadrer son mari, qui n'a pas su garder son foyer.
C'est ce qui vous a donné envie de vous engager.
Et ça m'a donné cette envie de l'enfance de m'engager et de m'orienter aussi dans les études de droit.
Maïmouna Koulibaly, vous êtes d'origine malienne, vous êtes née en France et vous avez été victime de violences quand vous étiez petite. Ça s'est passé quand vous aviez 3 ans lors d'un voyage au Mali. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de cet événement ?
Oui, donc quand j'ai eu 3 ans, on est retourné au Mali, on devait vivre là-bas. Et en fait, j'ai subi une excision. Enfin voilà, je crois que c'est le premier souvenir de ma vie que j'ai. C'était quelque chose de très violent. C'est une pratique qui existe beaucoup, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, même si ça existe dans plusieurs autres pays et continents aussi.
Au Mali, il faut quand même préciser que 89% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines.
Dans le Mali, c'est comme si c'était une norme, quoi. Je pense que c'est le poids des traditions. On va dire qu'une personne qui n'est pas excisée, c'est une personne qui est sale, qui ne va pas se rapprocher de Dieu, qui ne va jamais trouver de mari. Et en fait, ce n'est pas du tout vu comme une violence par rapport aux personnes qui la pratiquent.
Pour eux, ni d'ailleurs par rapport à la personne qui subissent ces mutilations, puisque encore en 2022, toujours d'après la même étude, on apprend qu'une femme sur cinq seulement une femme sur cinq considère qu'il faut arrêter ces pratiques. Ça veut dire que les 4 autres femmes
sont d'accord,
les approuvent.
C'est le poids des traditions, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas casser comme ça. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire.
Mais vous, quel souvenir vous avez, quel souvenir vous avez, vous, de cet événement?
Le souvenir que j'en ai, c'est quelque chose de très violent. C'est surtout le fait d'être immobile et de ne pas pouvoir bouger parce qu'on est bloqué au sol et on est en train de trancher quelque chose. Donc, faut savoir que le clitoris, ça a 8 millions de terminaisons nerveuses. Donc, c'est la partie la plus sensible du corps en comparaison avec les hommes quand on leur coupe le bout du...
Une circoncision.
Circoncision, voilà. Donc, eux, c'est comme si on leur coupait un ongle trop court. Mais nous, par contre, l'excision, c'est comme si on nous arrachait un bras vif, mais même pire, parce que là...
Vous vous souvenez de cette douleur?
Je me souviens de cette douleur qui était vraiment, vraiment très intense et je ne comprenais pas. Et le truc, il y avait ma mère qui faisait partie des femmes qui étaient en train de m'exciser. Et en fait, ce que je me disais, c'était mais si ma mère est là, mais ça veut dire que si jamais je n'étais pas excisée, quelle souffrance j'aurais dû subir? Parce qu'une maman, elle est là pour nous protéger. Et ma mère, elle était là pour me protéger, réellement. Et donc je me disais, mais si jamais je n'avais pas été excisée, quelle aurait été ma vie? Et je pense que c'est ça, je pense que, enfin en tout cas le travail qu'il y a à faire pour arrêter, enrayer ce fléau, c'est de voir à la base pourquoi les gens le font et pourquoi pour eux c'est important et à quel point c'est important de dire la souffrance qu'on peut subir. Quoi.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère, justement, de revenir sur cet événement?
Oui, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais à la sortie du livre, ma mère, une de mes sœurs a dit que j'en parlais dans le livre. Ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mais ça va pas, pourquoi t'en as parlé, on va me mettre en prison. J'ai dit, mais non, mais c'est pas, je dis pas que c'est de ta faute, je dis que c'est la tradition. Donc si toi tu vas en prison, on va mettre toutes les Maliennes, tous les Maliens en prison. Et après, elle m'a juste dit, toi tu dis qu'on était 5 femmes, mais non, il n'y a pas besoin de 5 femmes pour exciser un enfant de 3 ans. 2 personnes, c'est suffisant. Donc c'était assez léger dans la façon d'en parler, et moi ça m'a fait du bien. Mais c'était la première fois qu'on a pu en parler, et c'était il y a à peine 2 ans, quoi. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir lui en parler, parce que c'est quelque chose qui reste tabou pendant tout au long de nos vies, quoi.
Les violences faites aux femmes en Afrique, on continue d'en parler dans quelques instants, juste après un titre de circonstance. Fatoumata Diawara, une chanson sur l'excision. Donc, alors, on a invoqué le poids de la culture et des sociétés patriarcales pour expliquer les violences sur les femmes. Il y a aussi le poids de la religion. Pas plus tard qu'en octobre dernier, à Nouakchott, en Mauritanie, des fondamentalistes n'ont pas hésité à aller manifester pour s'opposer à un projet de loi contre les violences faites aux femmes. Selon eux, ce projet était contraire à l'islam. Idem au Sénégal, où des fondamentalistes également ont plaidé pour une abrogation du code de la famille qui était pourtant mis en place par Senghor. Evelyne, est-ce que c'est une des causes qu'invoquent les victimes que vous accompagnez dans votre association ?
Au Cameroun, il faut savoir que la religion, oui, effectivement, a un poids. Et c'est l'une des causes, surtout dans la partie septentrionale du Cameroun, dans le nord du Cameroun, où on fait face au mariage forcé et précoce. On a des jeunes filles qui sont mariées parfois à 8 ans, parfois à 10 ans et encore moins.
Et en quoi, justement, ces mariages précoces favorisent-ils les violences ?
Ça favorise les violences dans la mesure où le corps de la jeune fille, de la femme, parfois n'est pas préparé à subir, et du coup, elles subissent des violences sexuelles. Aussi, la femme est déscolarisée, la jeune fille est déscolarisée. Dans la plupart du temps, elle ne continue pas ses études à cause de ces mariages. Il y a des conséquences. Et là, ça a une influence sur la vie future de cette jeune fille.
Et ça, justement, c'est un des autres facteurs déterminants dans l'origine de ces violences.
Oui,
c'est l'origine socio-économique des victimes.
Oui.
Pour quelles raisons, justement, Khadija, expliquez-nous.
Alors, l'absence d'accès à l'éducation, la précarité, sont des facteurs supplémentaire à un risque de violence faite aux femmes.
Mais
et
pourquoi,
dès le plus jeune âge.
Pourquoi ?
Parce que, malheureusement, comme vous le disiez, nos différentes intervenantes, ce sont les femmes qui, malheureusement, transmettent l'éducation avec ce qu'on leur a inculqué, on les a conditionnées et elles pensent que c'est la vérité et elles ne peuvent pas vérifier cela. Elles n'ont pas accès à l'éducation. Et on leur fait comprendre que c'est la religion qui est le guide, avec une interprétation très masculiniste. Et donc, elles sont une sorte de justification à ces violences.
Et puis, au-delà de ça, ça pose aussi la question de la dépendance économique de ces femmes vis-à-vis de leur mari, ce qui fait que même quand elles subissent des coups, elles n'ont pas forcément les moyens de s'en aller, si jamais elles décidaient de le faire.
Tout à fait.
Tout à fait. Et c'est ce que nous avons sur le terrain des femmes qui disent, voilà, vous nous demandez de partir. Parce qu'on va vraiment au plus près de la population. Et la plupart du temps, c'est comment est-ce que je vais faire ? Dans la plupart du temps, les femmes sont dépendantes économiquement. Et ça, c'est vraiment un réel problème. Et là, nous travaillons sur vraiment l'autonomisation économique de la femme. Parce qu'on pense que c'est un levier. Et ce pourra être une solution aussi pour que ces femmes-là puissent se mettre à l'abri de ces violences. Parce que beaucoup restent dans des foyers parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Et à
dans
chaque fois qu'elles
cas,
dénoncent...
Certaines vont même
les
à
familles,
la rue.
Oui, il y a certaines femmes qui nous contactent parce qu'elles sont dans la rue. Et là, il n'y a pas au Cameroun des centres d'accueil comme on voit ici en France. Et ça, c'est un projet à long terme de créer un centre d'urgence, par exemple, pour ces femmes-là. Généralement, elles restent là, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas de moyens pour pouvoir se prendre en charge. Et dans la plupart du temps, elles ont des enfants. Et elles se disent, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ? Qui va prendre cette charge ? Sachant que la famille aussi, parfois, rejette ces femmes qui sont victimes. Donc, elles ont ce double poids de la société et aussi de leur famille qui les rejette.
Alors, les violences faites aux femmes, il en est aussi question au Sénégal. Le docteur Ndeye Hadi Babou est en ligne avec nous depuis Dakar. Bonjour, docteur.
Bonjour Lucie.
Alors, vous êtes docteur en santé publique, mais vous êtes également très impliquée au sein de l'ONG Equipop, qui œuvre pour le droit et la santé des femmes et des filles dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence des violences au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain ?
À ce stade, est-ce qu'on peut parler de recrudescence ? Je ne saurais y répondre, parce que malheureusement, pendant longtemps, il y a eu un problème d'accès aux données, plus l'omerta autour des violences que les femmes subissaient. Donc les femmes n'en parlaient pas. Mais ce qui est sûr actuellement, c'est que nous assistons à une formidable libération de la parole. Aujourd'hui, les victimes, les femmes, les activistes osent parler ouvertement de ces questions de violences sexuelles et sexistes et témoignent désormais à visage découvert.
À quel type de violence, excusez-moi docteur, à quel type de violence les femmes que vous recevez sont-elles exposées ?
Il y a plusieurs formes de violence. Hein. Nous, au milieu hospitalier, déjà, on peut recevoir des femmes qui subissent par rapport à la forme des violences physiques, des agressions sexuelles, des viols, mais également des mutilations sexuelles féminines, les mariages précoces et forcés.
Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'avortement est encore illégal au Sénégal et qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent d'avorter par leurs propres moyens. Donc, ça pose un double problème, en fait.
Effectivement. L'avortement est illégal au Sénégal. Malgré cela, en 2019, par exemple, on a eu des chiffres du ministère de la Santé qui faisait cas de près de 30 000 cas d'avortement provoqués. Du coup, malgré la loi qui est très restrictive, les avortements se font et dans des conditions malheureusement exécrables qui entraînent des complications. Parce qu'en service d'urgence médicale, c'est l'une des trois premières causes de consultation en urgence obstétricale gynécologique et ça fait partie du top 5 des causes de la mortalité maternelle évitable.
Oui, et puis vous m'expliquez en préparant cette émission que ces femmes qui arrivent à l'hôpital justement dans des conditions souvent catastrophiques, eh bien elles sont stigmatisées par le personnel médical et puis parfois même dénoncées.
Effectivement, on a eu un cas récent, l'affaire Esguien, une jeune femme qui a eu à avorter à 8 mois de grossesse et qui s'est retrouvée dénoncée par le personnel soignant qui l'avait reçue. Et malheureusement, cette jeune fille-là s'est retrouvée avec un mauvais protocole. Donc elle-même, elle a risqué sa vie et ensuite, elle a eu à subir 2 mois de prison ferme après cette infarctitude-là.
Oui, puis certains médecins n'hésitent pas à faire valoir leur clause de conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, c'est quoi la clause de conscience? La clause de conscience, c'est un peu un instrument juridique qui permet en principe de faire objection de sa conscience. C'est-à-dire que pour des raisons contraires à des normes morales ou éthiques individuelles, un professionnel de soins peut refuser un soin. Mais c'est soumis à condition. C'est-à-dire que si tu es seul dans une zone et que tu es la seule personne ressource pour offrir des soins, cette clause de conscience-là ne pourrait être appliquée parce que là, il y a mise en danger de la patiente ou du patient en l'occurrence.
Dernière question, très brièvement. Comment est perçu votre travail d'activiste au Sénégal? Est-ce que vous pouvez agir en toute liberté?
Malheureusement, non. Parce que quand je travaille comme militante, moi, je suis féministe, je suis aussi coordonnatrice du réseau des féministes du Sénégal. Tu travailles beaucoup sur des normes socioculturelles qui font en principe consensus et adoptées par un groupe social. Mmh. Et donc, quand tu veux travailler à déconstruire ces consensus-là, tu reçois beaucoup de backlash. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va devoir parler d'un problème de société, on se retrouve sujet à des...
Comment ça s'appelle? Des intimidations.
Harcèlement, mm-hmm. Voilà, des intimidations, harcèlement. Et même, parfois, ils utilisent de la provocation, déjà, oui, vous, on connaît là où vous habitez, on va venir vous violer. Donc, même le viol est utilisé pour nous intimider, les menaces de viol sont utilisées pour nous menacer.
Et le viol est un bon exemple, puisqu'au Sénégal, quand même, il faut préciser que c'est reconnu comme crime seulement depuis 2020.
Effectivement, et ça a été au découvrement d'une très longue lutte, mais on assiste malheureusement à une justice qui est frileuse pour faire des condamnations et donner parfois les peines maximum. On a souvent une requalification des faits en délit.
Merci beaucoup, docteur, pour votre témoignage.
Alors, on dit quoi ?
J'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre phénomène qui est particulièrement préoccupant, c'est celui des féminicides. Alors, c'est vrai, c'est un fléau mondial, mais ça touche encore une fois plus particulièrement l'Afrique. Au Cameroun, par exemple, on assiste à une véritable explosion du phénomène ces dernières années. N'est-ce pas, Evelyne Naoussi ?
Oui, malheureusement, l'année 2023 a été encore très tragique pour beaucoup de femmes. Dans les chiffres officiels qui restent des chiffres noirs, hein, c'est 36 féminicides au Cameroun en 2023. Et ça, ces chiffres sont contestables. Ça, c'est en tant que féministe, activiste et avec les retours sur le terrain, je trouve que ce chiffre a été minimisé par le gouvernement. Et il faut noter qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui meurent dans les zones rurales, qui ne sont pas répertoriées au niveau national. Et ces femmes-là, généralement, on les oublie. Or, on ne devrait pas oublier. Il y a des femmes qui n'ont pas accès, malheureusement, à Internet, qui n'ont pas les moyens pour ne serait-ce que se rendre dans un commissariat pour porter plainte et qui subissent dans le silence total les violences, meurent parfois sous les coups de leur conjoint. Et ces femmes-là ne sont pas comptabilisées.
Khadija, comment est-ce qu'on explique justement ce genre de pratique? Comment ça se fait que ça perdure? C'est dû quoi à une impunité des agresseurs?
Malheureusement, ces pratiques, aujourd'hui, elles sont de plus en plus visibles et c'est une bonne chose parce que des comptes, c'est une façon de lutter et de mieux cibler ces réalités sociales. Mais ça démontre qu'aujourd'hui, si on a encore au XXIe siècle, en Afrique et ailleurs, des féminicides, c'est qu'il y a toujours ce rapport de domination de l'homme sur la femme qui s'approprie le corps, qui veut s'approprier dès la naissance, puisqu'on voit par le contrôle avec les mutilations génitales, c'est aussi une façon de contrôler la sexualité. Il y a toute cette question du tabou aussi derrière, parce que... On ne maîtrise pas la fécondation. Et tout est lié à cela, malheureusement.
Mais que dit la loi concrètement au Cameroun? Quelle est la peine normalement infligée aux auteurs de féminicides, Khadija?
Alors, oui. Au Cameroun, elle se conforme à la loi, elle est belle. Hein. La loi est très, très belle. Mais malheureusement, ça va être l'effectivité. L'effectivité, parce qu'au Cameroun, c'est conformément au protocole de Maputo de 2003, ils ont mis en place des articles du code pénal qui sont très répressifs. Et on a la perpétuité en cas de féminicide, quand il s'est prémédité et autres. Donc, il faut avoir les preuves. Mais malheureusement, dans la pratique, on en est loin. On passe souvent à des faits divers, à des accidents cuisine, c'est nommé comme ça.
Et pourquoi les peines ne sont pas appliquées, Khadija ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est la volonté politique qui manque ?
C'est une manque de volonté et un manque de moyens. Un manque de moyens non seulement local mais aussi international. On a une sorte de relativisme culturel au niveau international, pourtant on a de très belles organisations internationales, l'OMS, ONU Femmes, font des rapports et on voit malheureusement qu'ils ne ciblent pas assez les dysfonctionnements dans le recueil des données des féminicides ou des violences faites aux femmes en Afrique et ne donnent pas de moyens financiers et humains pour mieux lutter contre ces fléaux.
Et puis dans le cas des viols, par exemple, il y a aussi beaucoup d'arrangements à l'amiable, c'est-à-dire que souvent on préfère arranger un mariage avec l'agresseur de la victime plutôt que de déshonorer sa famille.
Tout à fait, tout à fait. C'est la victime qui devient elle-même le déshonneur de la famille et donc on répare l'irréparable par une mise en scène, par un mariage et même si c'était une jeune fille mineure, on va avoir une décision du juge qui va déroger à la loi qui normalement prévoit une majorité pour le mariage.
Maïmouna, vous avez également subi d'autres violences au cours de votre vie. Vous avez été violée quand vous étiez enfant. Votre agresseur, il faisait partie de votre cercle familial ?
Oui, c'était un proche de la famille.
Est-ce que vous avez pu en parler à vos parents ?
Pas vraiment. Mon père n'est plus là. Pas vraiment, non. Avec ma mère, je crois qu'elle savait qu'il n'était pas très clair, qu'il n'était pas très net. Mais elle était étonnée de ce que je pouvais lui annoncer. On n'a pas parlé plus, mais sa réaction m'a soulagée. Elle avait dit que si jamais mon père avait encore été là, qu'il serait allé lui régler son compte. Et moi, ça m'a rassurée de savoir que ma mère était de mon côté.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce n'est plus un sujet tabou ?
Non, maintenant que je l'ai sorti dans un livre et que des milliers de personnes l'ont lu, je crois que non, ce n'est plus un sujet tabou. Et je pense que c'est vraiment important, tout à l'heure, Evelyne en parlait, du fait de libérer la parole. Dans nos sociétés africaines, il y a vraiment tout ce tabou qui se fait autour des choses qui tournent autour de la sexualité. Parce qu'il y a certaines personnes, pas forcément de ma famille, mais qui sont proches de la famille, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas dévoiler toutes ces choses, toutes ces violences que tu as pu subir ? Pourquoi tu vas raconter que tu as été violée ? Pourquoi tu mets la honte sur toi ?» Je dis « Mais non, je ne mets pas la honte sur moi. » Non, on me dit « Oui, tu vas passer pour une pute. » Je me fais. C'est moi qui suis violée et donc après, je suis une prostituée, donc il y a un problème. Et c'est des personnes qui vivent en France, ou sinon des personnes qui sont en Afrique, mais pour qui, dès qu'on va parler de sexualité, c'est forcément de la faute de la femme ou de la fille. Et c'est nous les fautives. Et donc, pour moi, ce livre, c'est un livre militant pour dire, quel que soit d'où on vient, qu'on soit des quartiers, des banlieues, qu'on vienne d'Afrique, qu'on vienne des villages, la parole, elle est vraiment importante d'en parler. Ne serait-ce qu'à une personne autour de nous, déjà, ça va nous libérer personnellement. Et d'un autre côté, pour faire avancer les choses. Parce que si on n'en parle pas, si on va dans la rue, et on sourit tout le temps, tout va bien à la maison, qui va commencer à se battre pour que les choses bougent enfin ?
Et puis ça ne fait pas évoluer les consciences.
Oui, et ça ne fait pas non plus évoluer les consciences parce que la plupart des hommes, quand on leur parle de violence, ils ne voient pas du tout de quoi on parle. Et ils ont l'impression que quand on dit viol, c'est bon, on t'a juste bousculé un petit peu, ça va, on t'a un petit peu égratigné. Ils ne se rendent pas compte de la douleur que c'est que d'être violée, qu'une personne qui entre dans notre espace physique et psychique.
Je vous propose maintenant d'aller en République démocratique du Congo, où les femmes sont également très exposées aux violences. Notre correspondant Joseph Karongo s'est rendu dans une ONG qui accompagne les victimes dans leur parcours juridique. C'est l'association Afia Mama.
Assise avec un visage triste dans les locaux de l'ONG Afia Mama, au centre de la ville de Lubumbashi, la quarantaine révolue, celle que nous appelons Ilunga, a accepté de témoigner sous anonymat sur le viol collectif qu'elle a subi il y a 3 ans. Cette mère de plusieurs enfants est marquée à vie par les événements du 25 septembre 2020 à la prison centrale de Kasapa dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Transférée dans ce lieu carcéral pour une détention préventive le 25 septembre 2020, après un délit de coups et blessures, trois jours après l'arrivée de Ilunga, un incendie dans la prison va occasionner l'évasion des détenus, mais aussi, hélas, des viols collectifs.
Je ne sais pas combien étaient ceux qui m'ont violé. J'étais sous le choc. Ils devaient être au nombre de 6 ou 5, mais c'était le soir et il faisait déjà nuit. Il n'y avait que des prisonniers. Ils ont mélangé les hommes et les femmes suite à l'incendie. Et c'est là que les viols ont débuté.
Ilunga n'était plus la même après ce drame. Les conséquences de ce viol ont bouleversé sa vie.
Ma prisonnière m'a réussi à connu à moi. Et puis m'a effectué le kata-kata babylon dans l'excès à mouvement. Il est...
Ces prisonniers m'ont psychologiquement tué. J'ai eu beaucoup d'infections à cause des blessures occasionnées par ce viol et j'ai également contracté le sida. Des fois, j'ai envie de me suicider avec du poison. Que l'État me vienne en aide. Je ne suis pas seule. Nous étions plusieurs femmes dans cette prison à avoir été violées qui ont contracté des maladies ce jour-là. Je n'ai même pas le courage de dire à mes enfants ce qui m'est arrivé à la prison, de peur de les inquiéter. Mon mari, lui, est au courant, mais a demandé le divorce suite à ça.
C'est depuis 2012 que Christelle Chamala est activiste de droits de la femme dans l'organisation non gouvernementale Afiamama. Cette ONG lutte contre les violences faites aux femmes en zone urbaine. Durant l'année 2023, c'est pas moins de 30 cas qui ont été enregistrés chez Afiamama dans la ville de Lubumbashi.
Il y a ceux-là que nous accompagnons psychologiquement, il y a ceux-là que nous accompagnons sur le plan judiciaire. On est en justice contre les bourreaux. Nous faisons des sensibilisations dans des écoles et nous laissons nos numéros comme numéro de contact en cas d'alerte. Et nous recevons chaque fois des élèves qui nous reviennent pour nous dire qu'ils ont été harcelés par des professeurs. Il y a ceux-là qui nous rappellent pour dire qu'ils ont subi des violences.
Aborder le sujet avec les victimes des violences, notamment sexuelles, est difficile. Plusieurs femmes préfèrent ne pas en parler, selon l'avocate Christelle Chamala. Au silence des victimes s'ajoutent d'autres difficultés.
Ce n'est pas notre nature, les femmes congolaises, de dénoncer. Et il faut noter qu'il y a un chiffre noir qui reste non connu jusque-là, parce que les femmes se disent, si je dois dénoncer, quel sera le regard de la société à mon endroit? Peu sont celles qui viennent et qui tiennent vraiment à ce que la justice soit faite en leur faveur. Mais nous, en tant qu'activistes, nous, notre rôle est de leur faire connaître leurs droits et de les orienter vers les instances compétentes pour servir d'exemple à la société. Parce que moi, je me dis, s'il y a au moins une femme qui dénonce, cette dénonciation peut sauver peut-être 20 femmes derrière elle.
Une autre victime, cette fois de harcèlement en milieu professionnel, a pu aussi accepter de parler sous anonymat. Le sentiment d'injustice anime cette jeune dame après que son employeur ait décidé de la sanctionner plutôt que son bourreau.
Ce que moi j'ai vécu, c'était très grave pour moi. Bon, quand même, j'explique, c'est pour peut-être me défouler. J'ai envie de les parler et dire à quelqu'un. C'était pour moi un choc grave. Moi-même, je me demandais pourquoi seulement moi, alors qu'il y avait d'autres personnes à sanctionner. Ce n'est pas vraiment facile, mais je suis en train de me ressaisir petit à petit. Voir dans un milieu professionnel de telles choses m'arriver, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Ici, chez nous, en RDC, la femme est toujours marginalisée par rapport à l'homme. Et surtout dans des telles situations de violences faites à la femme.
Si de manière générale, une flambée des violences faites aux femmes a été constatée lors des élections de décembre 2023 en milieu urbain, en RDC, c'est plus en zone de guerre comme dans la partie orientale que les violences faites aux femmes sont le plus enregistrées. Dans son rapport publié en décembre 2023, l'UNICEF affirme avoir recensé plus de 38 000 cas de violences faites aux femmes en 2022 dans la seule province du Nord Kivu qui est en proie à l'insécurité due à la présence de groupes rebelles.
Les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens.
Un reportage de Joseph Karongo, c'est le lauréat 2023 de la Bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une réaction à ce reportage, mesdames? Les chiffres sont glaçants.
Les ouais. chiffres sont glaçants. Et le truc, c'est que c'est quelque chose qui existe vraiment partout. Enfin, c'est affolant de voir à quel point ces choses existent partout. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est que c'est vraiment important qu'on ait des personnes qui sachent accueillir les personnes qui sont victimes de violences. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour les personnes qui sont là, qui veulent agir d'une façon ou d'une autre, c'est juste, montrez-vous disponible auprès d'une personne qui aurait subi des violences et écoutez-la. La première chose à dire, c'est dire « je te crois », parce que ça, c'est quelque chose, enfin, la plupart du temps, on a envie de mettre en doute la parole des victimes. Et je pense que plus on sera nombreux à entendre, à écouter, à comprendre les paroles des victimes, et plus les victimes oseront parler.
On se retrouve tout de suite pour continuer notre débat passionnant autour des violences faites aux femmes en Afrique, juste après une courte pause musicale.
Navala yo, navala, navala fori ebe ne wotan, kabifole namuwa mantanungo. Navala e, navala, navala fori ebe ne wotan, kabifole namuwa mantanungo. Mudera be santima, Mutuba kumbama, Mumuke mafurukumai. Marafanyi mara mua mantanuo. Marafanyi mara mua mantanuo.
Comme venu des cieux, entends monter vers toi sa voix, qu'aucun ne peut égaler d'autant de grâce. Ouvre ton âme, tends tes oreilles, pour toi elle chantera jusqu'à la mort.
Hé hey Marie, Marie, elle était Na Marie, Marie, elle était Na Mario, Marie, elle était Eh, Marafani, Mara, Mua, Mantamo. Eh, Marafani, Mara, Mua, Mantamo.
Tanoun de Mokouyaté avec Gabi Hartmann dans Alors on dit quoi ? Un titre qui parle des mariages forcés. On parle toujours des violences faites aux femmes en Afrique avec mes invités Evelyne Naoussi, Khadija Azougache et Maïmouna Koulibaly. J'aimerais maintenant qu'on aborde la question des moyens pour prévenir ces violences. Evelyne Naoussi, vous intervenez au Cameroun pour des campagnes de prévention aux violences sexistes. Comment est-ce que vous procédez ? Quel message vous essayez de faire passer ?
Alors, nous, déjà, on a acté pour aller vers la population parce que il faut savoir que il y a ce silence, ce déni. Et nous essayons, en fait, de sensibiliser la population sur un changement de mentalité parce que je pense que ça devrait partir aussi de là. Nous intervenons également dans les collèges. On essaye d'éduquer, de sensibiliser au mieux les jeunes, les plus jeunes, parce que c'est l'avenir de demain. Et là, dans les sensibilisations, on fait des sortes de causeries éducatives où on met des jeunes face, des jeunes garçons et filles face aux actes qu'ils banalisent au quotidien et qui sont sujets parfois aux violences et ces jeunes subissent eux-mêmes des violences.
Et comment vous avez l'impression que c'est accueilli, vos démarches justement auprès des populations que vous essayez de sensibiliser ? Je veux dire, toutes les jeunes générations sont ouvertes ?
Il faut savoir que pour les jeunes, il y a des débats. Mmh. Donc voilà, on ressent avec les échanges que le message ne passe pas forcément parce que c'est la société est comme ça. Et sur le terrain, on essaye de nous dire que voilà, on voudrait européaniser. Voilà pourquoi on veut européaniser les femmes africaines.
Ça, c'est un discours qui revient beaucoup.
Qui revient beaucoup. Sauf que là, il faudrait expliquer aux personnes que nous rencontrons que c'est pas ça le sujet.
Mais européaniser, ça veut pas dire la sauvegarde, lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet universel.
C'est un sujet universel et qu'on ne remet aucunement pas en cause nos traditions. Mais on voudrait juste qu'on puisse donner aussi la place aux femmes dans la société, qu'on puisse limiter au maximum les violences, que ce ne soit pas un fardeau ou une fatalité pour ces femmes.
Et puis, il y a aussi un travail à faire, j'imagine, auprès des jeunes garçons, parce que, je veux dire, les garçons qui commettent des agressions, je pense que la réponse judiciaire ne va pas suffire. Il faut aller au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ben là, il faut, par exemple, au niveau du Cameroun, créer soit une loi cadre qu'on va mettre en œuvre, parce que l'idée, c'est pas juste
en œuvre,
de...
C'est toujours le problème.
C'est le problème, la mise en œuvre des lois. Le Cameroun a signé des conventions, c'est vrai, internationales, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et par exemple, la prise de plainte dans les commissariats, il faudrait qu'il y ait, par exemple, un numéro d'urgence. On essaye de proposer des solutions pour lutter concrètement contre ces violences.
Est-ce que vous encouragez les victimes également à porter plainte ?
Nous encourageons, nous les accompagnons, sauf qu'il y a une réelle difficulté sur le terrain. On voudrait vraiment que les plaintes soient prises, par exemple, sans contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas. Parfois, une femme se présente ou on appelle. On a eu des cas où on appelle la police, mais là, il faut mettre le carburant. On est face à ces problématiques et qu'à chaque fois, on milite, on continue à travailler sur ces sujets. Donc, il y a des freins sur le terrain pour ces femmes déjà de porter une simple plainte. Et après la plainte, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, rien.
Désirée Dénéo est également avec nous depuis Abidjan. C'est la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonjour Désirée.
Bonjour.
Alors la Côte d'Ivoire, hélas, ne fait pas exception à la règle des violences faites aux femmes. À titre d'exemple, rien qu'à Abidjan, 416 féminicides ont été enregistrés entre 2019 et 2020, quand en France, à la même période, on en enregistrait 236. Quel est selon vous le meilleur moyen d'enrayer les violences en Côte d'Ivoire ? Comment est-ce qu'on peut faire changer les mentalités ?
Il y a peut-être la répression, mais je pense qu'il faut beaucoup de prévention parce que les violences enfin, ne sont que le fruit d'une société patriarcale selon laquelle la femme est celle qui peut tout subir et qui doit tout accepter. Donc, il faut éduquer, il faut sensibiliser et éduquer, c'est vraiment aller à la racine. Nous, à la Ligue, on essaie quand même depuis 2-3 ans de vraiment s'intéresser aux jeunes publics, pas jeunes publics, entendez par là, des élèves en primaire, au collège et au lycée, mais également dans le milieu universitaire, de sorte à faire comprendre en fait ce que sont les violences, ce qu'est vraiment la notion du consentement. Parce que quand on tient des discussions ou des ateliers avec des adolescents, même avec des étudiants, même des personnes adultes, enfin, la notion de consentement, on se rend compte qu'elle est mal comprise. Et alors qu'elle est vraiment au fondement de tous les cas de violence basée sur le genre. Donc vraiment faire comprendre cela aux personnes. Et aujourd'hui, on essaie quand même de travailler sur des programmes à travers des projets de différents bailleurs, de surtout faire comprendre par exemple aux acteurs de la police et de la gendarmerie qui sont les premiers à accueillir femmes victimes de violence, ce que c'est la notion de consentement. C'est pas parce qu'on était on portait un short court, c'est pas parce qu'on portait des...
On
est responsable du viol. Mais c'est vraiment quelque chose qui peine aussi à se faire comprendre parce qu'encore une fois, on est dans une société qui est phallocrate, qui est très patriarcale et ça demande du temps pour déconstruire en fait cela.
Alors, vous faites beaucoup de sensibilisation, y compris sur les réseaux. Et la grande actualité en ce moment, eh bien, c'est la CAN qui vient de commencer. Et sur votre page Facebook, notamment, vous mettez en garde les femmes, justement, sur les violences qu'elles pourraient subir pendant la CAN. Il y a eu beaucoup d'agressions de femmes pendant la précédente CAN ?
Oui, pendant la précédente CAN, après, nous, on n'a pas forcément répertorié les agressions pendant la précédente CAN, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de la Ligue, il y a eu quand même un pic concernant les appels, en fait, de dénonciation de victimes pendant la précédente CAN, ou même pendant les matchs de football, parce qu'avec l'euphorie, avec l'alcool et tout qui va avec, il y a des agressions sexuelles. D'ailleurs, Traoré Binto Mariam, qui est membre fondatrice de la Ligue, était victime d'agressions sexuelles lors de la finale de la CAN précédente. Donc, c'est une réalité. Et là, avec le collectif Voix féministe d'Afrique francophone, nous avons lancé la campagne Can Safe pour les femmes, en fait, où à travers des créas diffusés sur nos différents réseaux sociaux, nous essayons de sensibiliser sur la notion du consentement et également donner tous les numéros d'associations en Côte d'Ivoire qui interviennent sur la question des violences faites aux femmes, de sorte à pouvoir accompagner des victimes au cas où, mais le mieux pour nous, c'est qu'il n'y ait pas énormément de violences enfin, faites aux femmes.
Alors justement, quel type de conseils vous pouvez donner à nos auditrices pendant cette période? Comment elles doivent faire pour se protéger d'agression?
Vous voyez, je suis quand même très mal à l'aise en tant que féministe, moi, de donner des conseils aux femmes enfin, pour se protéger, parce que ce serait en fait quand même aux hommes de ne pas agresser les femmes. Bref, je referme la parenthèse. Mais c'est surtout faire attention parce que en Côte d'Ivoire, on parle de ce qu'on appelle la drogue du violeur. Enfin, c'est des drogues, parfois des liquides qui sont mis dans des boissons de jeunes filles, en fait.
Donc, surveiller ce qu'on a dans son verre.
Être sûr, enfin, d'être accompagné de personnes, en fait, à qui on fait confiance.
Ne pas sortir seul.
Si on est témoin de cas d'agression, ne pas hésiter à contacter des organes. Le 1308, en fait, qui est le serveur pour dénoncer les cas de violence, ou contacter la Ligue, en fait, au 2x07-34-61-64. Enfin, nous répondons 24 heures sur 24. On nous contacte aussi sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Désirée Dénéo Maïmouna. Je me tourne vers vous. Comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, vous avez subi de nombreuses violences au cours de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes mère de deux jeunes filles. Est-ce que vous leur avez parlé des violences qu'elles risquaient de subir dans leur vie en tant que femme?
Je leur ai parlé des violences, en tout cas, que moi, j'avais subies. Et en me disant que c'était quelque chose qui arrivait plus souvent qu'on ne pouvait l'imaginer, plus que ce que la société nous donne à voir. Pour moi, c'est ma façon de les préparer à ce qui peut arriver. Plutôt que... Enfin, j'ai pas voulu rentrer dans la démarche de « attention, il peut arriver ça, mon Dieu ». C'est plutôt... Voilà, on vit dans un monde... Enfin, dans la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que les hommes ont un pouvoir plus puissant que les femmes aujourd'hui, parce que, voilà, ils sont défendus à plein de niveaux et pour une femme, c'est très compliqué de se défendre, mais on le fait et on va continuer à le faire. Et en fait, je suis contente de leur en avoir parlé.
La petite... C'est pas tabou, en tout cas.
C'est pas tabou. La petite, quand j'en ai parlé la première fois, la petite, elle avait 9 ans et voilà, et la grande vers 17-18 ans. Et je pense que c'est important d'en parler. Il y a une dame du Congo tout à l'heure qui disait qu'elle en avait parlé à son mari, mais qu'elle voulait pas en parler à ses enfants. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse en parler. Et les enfants sont plus intelligents qu'on ne puisse l'imaginer. Et voilà, et ça va être des armes essentielles et pour les hommes, et pour les garçons, et pour les filles.
Alors, vous animez aujourd'hui des ateliers de boutithérapie. Racontez-nous en quoi ça consiste.
Alors, la boutithérapie, c'est le fait de bouger ses fesses pour assumer sa féminité et pour aussi se faire du bien et pour se réparer des traumas qu'on a pu subir dans notre vie. C'est basé sur les danses afro-urbaines et les danses traditionnelles de trance africaines qu'on utilisait pour se faire du bien et qui avaient une valeur thérapeutique.
La danse pour se réapproprier son corps, une belle façon de se réparer. Très brièvement, toutes les trois, quels conseils vous pouvez donner à nos auditrices qui subissent des violences, là, qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'il faut leur dire absolument?
Parler.
Briser le silence, ne pas suivre tous ces termes.
Khadija?
Se faire confiance, surtout. Moi, en tant qu'avocate, je les rencontre fréquemment et elles minimisent leur potentiel et elles minimisent que c'est elles qui peuvent faire avancer les choses. Donc, on croit en elles et il faut qu'elles ne baissent pas les bras. Tout à l'heure, je parlais rapidement de relativisme culturel. Il faut également éviter le jugement. Arrêtons de juger ces femmes.
Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais l'émission touche à sa fin. Pour approfondir la question, je vous recommande d'écouter l'excellent podcast Balai pattes de Penaï Traoré, qui est disponible sur le site de RFI et sur les plateformes. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer et à Guillaume Munier à la réalisation. On se quitte en musique avec Yo Rek de Nara Diouf et Djiba. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Alors on dit quoi. D'ici là, portez-vous bien. Come on, hold me, I put up. I'm not here, break light up.